Loin. Très loin vers le nord. Il est une terre hostile, où les nuits durent plusieurs lunes, où les hivers sont rudes, et où vivent les hommes du nord, les vikings. D'une race fière et redoutable, ils sèment la terreur partout sur leur passage.
Dinodoc, le podcast des petits curieux. Animé par Boris, Ludo et Dino.
Bonjour Boris.
Bonjour Ludo. Comment vas-tu ?
Très bien, et toi ?
Bien.
Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ?
Des vikings.
On s'en serait un peu douté en écoutant l'extrait qui a introduit cette émission.
Alors déjà, qui sont les vikings ? Ce sont des peuples scandinaves. Des agriculteurs, des artisans, des marchands. Et aujourd'hui, la Scandinavie, c'est la Norvège, le Danemark et la Suède. Ils existent depuis environ moins 10 000 avant Jésus-Christ. Donc les vikings, ce ne sont pas que des peuples autochtones. Il y en a aussi qui viennent de Russie, de Finlande, de Germanie, d'Italie. Pendant l'Antiquité, ils fabriquaient beaucoup d'objets et ils les commerçaient jusqu'à la Méditerranée. Et précisons bien que tous les Scandinaves ne sont pas vikings. Les vikings sont des Scandinaves qui prennent la mer pour piller ou commercer.
Alors d'où exactement connaît-on les vikings ?
Quelques textes du Moyen-Âge les évoquent, mais peu. C'est pour ça que c'est pas très fiable. Et il y a plus, par contre, de renseignements grâce à l'archéologie. Des fouilles de sites, des reconstitutions de bateaux, des redécouvertes d'anciennes voies maritimes. Et aussi par la culture populaire, les livres, les films, la peinture. Parce que ça, c'est pas très... C'est côté négatif, ça, parce que c'est peu fiable. On imagine un viking avec un casque à cornes.
Oui, surtout les œuvres de fiction anciennes, généralement, elles sont construites. Un peu comme on avait vu lors de l'émission sur les Gaulois, il y a beaucoup de clichés dans les œuvres de fiction les plus anciennes.
Donc il y a différents peuples vikings, mais ils partagent plus ou moins la même culture. Donc déjà la langue, le norrois. Quand on dit norrois, il y a quand même quelques variations dans environ le même mode de vie, l'habitat, la coutume, les pratiques religieuses. Le mode de gouvernement, c'est le système des clans ou des chefferies locales. Parmi les différents peuples d'Europe, et au cours des âges, on leur a donné différents noms. Donc les Germains les appellent les hommes à la hache. Hache comme Annie. Les Irlandais les appellent les hommes des lacs, Loch Lamach. Les Anglais les appellent les Danois, Danes. Les pays slaves les appellent les rameurs, Ross ou Rus. Et les Byzantins les appellent les hommes d'honneur ou de serment, Varagian.
À peu près dans le cours d'une dizaine d'années, à l'extrême fin du 8e siècle, dans les années 790-800, on voit apparaître, avec des intentions offensives nullement dissimulées, des vikings norvégiens sur la côte nord de l'Angleterre, sur la côte d'Irlande, du côté de la Vendée, des vikings danois en territoire allemand, et vers la même époque, ça c'est l'archéologie qui nous l'enseigne, des Suédois, quand il s'agit de Suédois on les appelle plutôt Vareg, mais ça revient exactement au même, se mettent à traverser de part en part l'immense continent russe, pour finir par apparaître dans les années 835-840 dans les eaux de la mer Noire et de la mer Caspienne. Une simultanéité donc tout à fait extraordinaire et un phénomène auquel les contemporains n'ont d'abord absolument rien compris.
Alors tu nous as parlé rapidement du mode de gouvernement avec les clans et les chefferies. Et pour le reste, comment la société viking était-elle organisée ?
Eh bien déjà c'est un cadre très strict. Il y a quand même une hiérarchie. Il y a les thralls, les esclaves, les carles, les hommes libres, et les jarls, seigneurs.
Avec une évolution possible. Alors bien sûr, un esclave ne pouvait pas finir seigneur, mais... il pouvait finir homme libre. Donc il ne faut pas voir les esclaves comme on a l'habitude de les voir, comme des hommes sous les fers, maltraités. Alors, c'était des esclaves, ils n'avaient pas leur liberté, mais malgré tout, ils étaient plutôt bien traités, entre guillemets, par les Vikings, qui les considéraient comme un bien précieux, donc ils les nourrissaient, ils les soignaient quand ils étaient malades.
Rien ne les a poussés, simplement c'était des commerçants qui connaissaient toutes ces voies de déplacement sur le bout des doigts, qui avaient leurs itinéraires, qu'on connaît très bien, qui avaient fondé leur comptoir, qui avaient leurs agents. Je suis le premier à avoir attiré l'attention sur le fait qu'ils n'ont pas de problème linguistique, les Vikings. Or, le vieux norrois, croyez-moi sur parole, c'est une langue particulièrement difficile, n'est-ce pas? Or, ils vont, vous voudrez, en Lituanie, en Espagne, en Grèce, ils n'ont pas de problème linguistique. Ils avaient donc des traducteurs sur place. Bon. Et puis alors, il faut insister avec vraiment toute la force requise, c'est leur fameux bateau. Leur bateau s'appelle Knörr, comme le potage, mais avec un tréma sur le haut en plus, n'est-ce pas? Knörr, ou bien Skeid, ou bien Birlingur, ou bien Snekka. Il a un tirant d'eau ridicule, il est monté à clin vif. Il se manœuvre à la voile et à la rame, il vire l'œuf pour l'œuf dans un rayon absolument ridicule. Il peut, en effet, il a un tirant d'eau tellement ridicule qu'il peut remonter dans une toute petite rivière ou traverser un océan, mais il a plusieurs défauts. D'abord, il ne remonte pas au vent. De plus, il embarque beaucoup d'eau puisqu'il est très très bas. Donc il faut imaginer, tant pis pour le romantisme, cher monsieur, il faut imaginer les Vikings passant le plus clair de leur temps à écoper.
Alors bien entendu, dans l'imaginaire collectif, les Vikings, c'est la mer.
Oui.
Et du fait, les Vikings étaient de grands marins.
Oui.
Nous allons en parler dès maintenant. Pourquoi naviguent-ils? On en a parlé très brièvement dans la première partie.
Ils veulent commercer et ils ont besoin d'expansion, c'est-à-dire agrandir leur territoire. Nous allons maintenant parler des routes de navigation. Ils partent du Danemark, de la Norvège ou de la Suède. Ils vont vers à peu près partout en Europe. Ils passent par la mer du Nord ou l'Atlantique. Ils partent aussi vers la Russie et l'Empire byzantin, par la voie de terre depuis la Suède. Ils partent aussi vers Constantinople, par la Méditerranée. Ils vont aussi vers le Groenland, ce qui correspond aujourd'hui au nord du Canada, et qui signifie terre verte, car à l'époque, le Groenland était moins glacé qu'aujourd'hui.
Alors comment s'orientaient-ils sur la mer pour trouver leur route jusqu'à ces pays très lointains?
Eh bien justement, j'allais en parler grâce aux signes naturels. Par exemple, la présence des baleines, des oiseaux, des étoiles.
Leur bateau.
Le mot drakkar a été inventé bien après les Vikings. En fait, on dit plutôt landskip, mais plusieurs types de bateaux existent. Il y a deux grandes familles. Les landskip, qui sont des navires de guerre. Dans les landskip, nous avons les sked, plus grands navires de guerre. Jusqu'à 30 mètres de long et pouvant contenir une centaine d'hommes. Et les snegja, navires de guerre. Plus petits. Les landskids ont une forme basse et allongée et ils peuvent utiliser la voile ou la rame, facilitant la navigation sur les fleuves et la mer. La proue des landskids est très importante. Elle est probablement amovible pour pouvoir effrayer les ennemis lors des raids puis la retirer au retour. Elle est affublée d'une tête de dragon qui serait à l'origine du mot drakkar, invention du 19e siècle. Et il y a des boucliers à bâbord et à tribord pour protéger les rameurs.
Quel est le deuxième type de bateau alors?
Les co-skip, pour le commerce et le transport. Il y a les birding, qui longent plutôt les côtes, et les knarr, pour les hautes mers.
Outre qu'ils étaient un peuple de marins, les Vikings étaient aussi un peuple de guerriers. Parlons, pour commencer, de l'équipement du parfait guerrier viking.
Il existe des leads. C'est des associations de loyaux frères d'armes. Les membres pouvant être à tout instant appelés à se battre. Et chacun doit avoir ses armes prêtes à servir.
Là encore, on trouve un rapport avec la société gauloise, tu te rappelles? On disait que chacun possédait ses armes.
Et...
alors l'équipement, précisément?
Les guerriers possèdent une hache à simple tranchant et à long manche. Un grand couteau, appelé...
Scrameustache!
Non, scramasaxe.
Ah!
Et un arc long. Pour les plus riches, une lance et une épée. Le fer coûte très cher, la fabrication d'une lame à double tranchant aussi. Pour la protection, un bouclier en bois peint, rond avec un ombilic en fer. Alors, un ombilic, c'est une partie métallique protégeant la main. Et aussi, un casque en fer conique, parfois doté d'une protection nasale ou de lunettes. Quand on dit lunettes, c'est pas des lunettes... de vraies lunettes, quoi.
Il n'y a pas de verre.
Oui.
C'est juste une sorte de partie en métal.
Qui entoure les yeux. Et aussi, pour les riches, ils ont une cotte de mailles.
Bah, comme dans toutes les sociétés, les riches sont un peu mieux lotis que les pauvres, en fin de compte. Mais par contre, cette image des guerriers vikings qui vont tous au combat torse nu, elle est complètement fausse.
Oui.
Pour faire la guerre, quelle tactique utilisaient les vikings?
En fait, il y a trois phases. Le combat commence par une pluie de flèches sur l'ennemi, puis le combat au corps à corps commence. Et enfin, les meilleurs chefs disposent d'hommes en rang de boucliers, qui s'appellent les Huskars, gardes rapprochés du seigneur, et servant de rempart et protection de leur chef.
Les vikings étaient des guerriers valeureux en général.
Oui.
Le courage, la rage et la gloire avaient une grande valeur à leurs yeux. D'autant plus qu'une croyance particulière renforçait cet état d'esprit. Laquelle?
Eh bien, que les guerriers valeureux rejoignaient Odin au Valhalla, dont nous parlerons dans la prochaine partie.
Oui, on peut juste dire que c'est un peu l'équivalent d'un paradis pour eux.
Après la bataille, les vikings ont plusieurs choix. Soit rançonner des seigneurs locaux en échange d'art et des pillages, soit continuer les rapines plus loin, soit s'installer dans la ville et en faire une base arrière ou un centre économique.
De quel type d'armée disposaient les vikings? Est-ce que c'était de grandes armées comme on en voit au Moyen-Âge avec des milliers d'hommes?
Non, ce sont de toutes petites armées. Une bande égale moins de 35 hommes. Au-delà, c'est une armée.
Quelques grands chefs ont dirigé ces armées. Peux-tu nous indiquer lesquels?
Il y a Roland, premier duc de la Normandie, 870-932. Harald à la dent bleue, 935-985, roi de Danemark et de Norvège. Éric le Victorieux, 945-995, premier roi de Suède. Knut le Grand, 995-1035, roi d'Angleterre, de Danemark et de Norvège.
Et on aura remarqué que les vikings appréciaient particulièrement de donner des noms un petit peu tarabiscotés à leur chef.
Par exemple, à la dent bleue.
Harald à la dent bleue.
Leur dieu s'appelle Thor ou Odin. Leur roi, il s'appelle Knut le Grand ou Harold aux beaux cheveux. Le chef qui commande leur aide, contre Barry, c'est un nommé Lodbrog. C'est un homme du Nord, c'est un Normand.
Donc, une fois qu'ils avaient fini de commercer ou de faire la guerre dans les contrées étrangères, les vikings revenaient en Scandinavie et devenaient finalement des Scandinaves comme les autres. Malgré tout, ils avaient une culture particulière, nous l'avons dit, et nous allons désormais parler de la vie quotidienne et des coutumes chez les vikings, en commençant par l'habitat.
Alors, il y a différents types d'habitat. La maison longue, de 10 à 80 mètres, pouvant contenir 30 à 50 personnes, de 4 à 5 mètres de large, appelée skali. Les murs sont en torchis, en bois, en planche ou en tourbe. La charpente en bois de pin ou de chêne. Le toit en chaume, en planche enduite de goudron, en bardeaux ou en couverture d'herbes et végétaux. Les couvertures d'herbes et de végétaux sont une excellente isolation contre le froid et l'humidité. Rare ouverture dans les murs, bouchée en hiver.
De quoi est composé le torchis?
De boue et de paille.
Qu'est-ce que le chaume?
De la paille.
Et enfin, les bardeaux.
Comme des tuiles, mais en bois.
À noter qu'il y avait relativement peu de mobilier dans les maisons scandinaves.
Il y avait un foyer central et des couchettes murales.
Un deuxième type de maison?
Oui, les maisons fausses. Alors, comme leur nom l'indique, elles sont semi-enterrées. Ce sont des maisons communes. Elles sont enfouies à environ 1 mètre de profondeur. Elles mesurent 4 mètres de long sur 3 mètres de large. Pour les matériaux, ce sont les mêmes que les maisons longues. Elles sont aussi bien isolées. Un de leurs avantages est de nécessiter moins de matériaux de construction. C'est une habitation pour les familles, les esclaves, ou un atelier d'artisans, tisseurs ou forgerons, ou encore une étable.
Quel type d'activité pratiquaient les vikings au quotidien?
Déjà l'artisanat, donc le tissage. C'est les femmes et les esclaves qui tissaient. C'est une spécialité viking.
Et une de leurs principales sources de profit. Et donc une des raisons pour lesquelles ils voyageaient justement sur les mers pour aller vendre leur tissage à l'étranger.
La pêche et la chasse. La pêche en mer et en eau douce. La chasse aux phoques et à la baleine. Ils utilisent la graisse, la viande et l'os de la baleine. Ils pratiquent le séchage de la viande.
Parce que sous cette forme, c'est plus commercialisable, ça se conserve plus longtemps.
Oui. Ensuite, la musique. Il y a beaucoup d'instruments, en bois ou en os, à vent, à cordes et des percussions. Et il y a les skalds. Les skalds sont comparables à des bardes. Ils sont poètes et musiciens, contant des exploits des rois et jarls. Parmi les activités des vikings, il y avait les jeux, donc ils fabriquaient des jeux de plateau.
Est-ce que les vikings étaient, comme les gaulois, coquets ?
Oui. Déjà, l'habillement. Les tissus de leurs habits sont en laine, en peau d'animaux, en soie, pour les plus riches. Ils ont plusieurs couches de vêtements superposées. Pour l'homme, une tunique à mi-cuisse, un pantalon bouffant, une bande molletière. Plus une ceinture avec une bourse, un couteau, une cape fixée à l'épaule par une fibule, un chaperon ou bonnet de laine, par temps froid. Pour la femme, sous-robe plus robe en laine, plus tablier en laine, tenue aux épaules par des bretelles sur lesquelles étaient fixées des paires de broches tortues.
On va dire que ce sont là les tenues types, mais bien sûr, tous les hommes, toutes les femmes n'étaient pas forcément habillés avec toutes les pièces qu'on a citées.
Souvent, les vikings se paraient aussi de bijoux, de broches, fibules, en or ou en argent, avec des perles de verre poli de couleur. Les vikings comptaient parmi les meilleurs orfèvres en Europe. Dans les bijoux, on a les colliers, les torques, les bracelets, les chaînes et les bagues.
Une petite aparté que je me permets pour dire que les vikings, contrairement à l'image qu'on a,
ne sont pas tous blonds à peau claire.
On l'a dit en tout début d'émission, les pays scandinaves ont connu des vagues d'immigration de peuples venus d'autres lieux d'Europe, ce qui a créé un brassage ethnique et donc un mélange des caractères physiques également.
Ils prennent un grand soin de leur apparence, comme les Gaulois. Donc, ils se maquillent les yeux, ils se nettoient les dents et les ongles, ils se peignent, ils se tressent et se tatouent.
Le morceau que nous entendons depuis quelques instants est un morceau de Richard Wagner, La Chevauchée des Valkyries. Un morceau parfait pour introduire la dernière partie de notre podcast qui concernera la religion chez les vikings.
Alors, pour commencer, ils sont polythéistes, ça veut dire qu'ils croient en plusieurs divinités. Mais ils n'ont pas de clergé. Je vais vous présenter quelques dieux. Odin, qui domine tous les autres, le dieu de la guerre et de la victoire.
Un dieu domine cette mythologie par l'étendue et la supériorité de son pouvoir. Odin, il est vraiment le roi des ases, qui sont la catégorie la plus distinguée des dieux. Il est magicien, pourvu de toutes sortes de moyens et d'auxiliaires pour connaître le présent et l'avenir. Deux corbeaux qui courent le monde et lui font des rapports. Les pendus qui lui parlent. Le merveilleux cheval à huit pieds qu'il transporte à travers les airs.
Thor, le fils d'Odin, dieu du tonnerre et de la force. Loki, le dieu de la sournoiserie et de la ruse. Freja, la déesse de la fertilité et de l'amour. En plus des dieux, ils ont plein de créatures, des elfes, des nains, des géants, des trolls et des monstres. Toutes ces créatures se partagent les neuf mondes d'Yggdrasil, dont nous allons parler un peu plus tard. Parmi les croyances des Vikings, il y a le Ragnarok, une sorte de fin du monde comprenant un long hiver de 3 ans sans soleil, une grande bataille où Odin, Thor et Loki perdraient la vie et une succession de catastrophes naturelles entraînant la mort des hommes. Et le Valhalla, une sorte de paradis. Il accueille les guerriers valeureux morts au combat.
Nous en avons déjà parlé en début d'émission.
Oui. Ainsi que les Walkyries, déesses guerrières aux ordres d'Odin, exhortant les guerriers morts au combat jusqu'au Valhalla.
Alors, pour terminer, le fameux Yggdrasil.
Alors, déjà son nom signifie le coursier du terrible, le terrible désignant Odin. Yggdrasil est un arbre symbolique, plus précisément un frêne. Il représente l'axe de l'univers. Il comprend 9 mondes. Asgard, royaume des dieux Aesir, relié au monde des humains par le pont arc-en-ciel. Alfheim, domaine des elfes et de la lumière. Jotunheim, territoire des géants. Nilfheim, monde de glace et des ténèbres. Midgard, terre des hommes. Muspelheim, monde du feu. Svartalfheim, domaine des elfes sombres. Helheim, monde des morts. Vanaheim, royaume des dieux Vanir. À la cime de l'arbre se trouve l'aigle Arsfreg. Ses racines sont mangées par le serpent Nidogre, ennemi de l'aigle.
Et entre les deux, l'écureuil Ratatosque court pour délivrer les messages haineux qu'ils s'adressent l'un à l'autre.
Et maintenant est venu le moment attendu par tous, la rubrique de Dino.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter quelques personnages historiques issus du monde viking. Ragnar Lodbrok, 9e siècle. Beaucoup d'événements, de conquêtes, d'actions, de raids lui sont attribués. Si bien que l'existence même de Ragnar est souvent mise en doute et qu'on le considère parfois comme un héros mythique. Histoire aurait-elle été faussée? N'aurait-on pas attribué à Ragnar les exploits de plusieurs personnes? Même s'il n'existe aucune preuve de son existence, une chose est sûre, Ragnar aurait été un guerrier et envahisseur redoutable. Leif Erikson, 970-1020. Leif est l'un des fils d'Éric le Rouge. Il fut le premier Européen à découvrir l'Amérique du Nord, 500 ans avant Christophe Colomb. Il y aurait découvert des vignes qui inspirèrent le nom de la région, Vinland. En vieux norrois, Vinland signifie « pays du vin » ou « terre des vignes ». Éric le Rouge, 950-1003. Éric le Rouge, de son vrai nom Eirikir Thorvaldsen, est un explorateur tout droit venu de Norvège. Son surnom proviendrait de la couleur rousse de ses cheveux et de sa barbe. On lui doit la première colonie européenne fondée au Groenland, après qu'il a été banni pour meurtre. Une saga viking porte son nom et relate son histoire. Harald à la Dent Bleue, 910-985. Harald à la Dent Bleue est un ancien roi du Danemark. Il est célèbre pour avoir rejeté ses croyances vikings en préférant se tourner vers le christianisme afin d'unifier son royaume et différentes régions de Norvège de Suède et du Danemark. Son étrange surnom lui viendrait d'une de ses dents, probablement abîmée et qui aurait été plus foncée que les autres. Harald à la belle chevelure. 850-933. Harald à la belle chevelure est connu pour avoir été le premier roi à avoir régné sur toute la Norvège. Il aurait juré de ne pas se couper les cheveux tant qu'il ne deviendrait pas roi de la Norvège, ce qui lui aurait valu son surnom. Il y est arrivé par conquête, en gagnant petit à petit les royaumes dispersés sur tout le pays. Olav Tryggvason, 963-1000. Olav Tryggvason était un roi de Norvège. Malgré son règne assez bref, il est réputé pour avoir converti la population viking au christianisme, par foi de la force, et aurait ordonné la construction de plusieurs églises. Il fait d'ailleurs partie des célèbres rois de grandes sagas vikings. Au revoir.
Toutes ces informations que nous a données Dino sont extraites du livre « Viking, peuple des mers » aux éditions Vagnon Jeunesse.
Le livre coup de cœur.
Pour ce podcast, j'ai choisi de vous parler des petits vélos de K. Koyoma aux éditions Komiku. Je vais vous dire un petit résumé. Véloutre, loutre mâle, tient une boutique de vélos. C'est un restaurant, me direz-vous. Eh bien non, car malgré ses airs de pizzeria, c'est bel et bien une boutique de vélos. Le tome 1 et le tome 2 sont en fait divisés en petites histoires qui se passent autour de la boutique. Par exemple, une course de vélo, une randonnée à vélo, un achat de vélo pour amoureux, une chatte de Meumeu Express leur rendant visite à vélo, etc. Attention, car je tiens à préciser que ce manga est publié en version originale, ce qui veut dire qu'il ne se lit pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. C'est une série. Les personnages principaux: Yoko, brebis, Véloutre, loutre, Tigrou, chat, Lémur, lémurien, Monsieur Bernard et Barbara. Ce que j'en ai pensé, c'est trop bien car tout ce qui se passe est drôle et mignon. Particulièrement, j'ai adoré le passage de Kevin et Arthur et aussi Eddie Sourisseau.
Nous arrivons au terme de notre émission, une émission qui fut extrêmement compliquée à enregistrer en raison de nos nombreux fous rires dus à notre prononciation calamiteuse des noms scandinaves. Et à ce titre, je tiens fièrement à remettre à Boris la palme de la prononciation des mots scandinaves, car tu t'es sorti de cette tâche avec brio.
Oui, j'ai
prononcé. T'as prononcé, vas-y, redis-le, le nom de l'aigle qui vit à la cime de l'arbre Yggdrasil. À tes souhaits.
Merci.
Au revoir aux auditrices et auditeurs.
Au revoir.